de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Sébastien Guyot et Elisabeth Assayag.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
À la une, la mort de Dick Rivers le jour même de son anniversaire.
Oui, le chanteur devait fêter ses 74 ans aujourd'hui. Retour sur ses 55 ans de carrière dans un instant. Du béton directement déversé dans la Seine, ça se passe à Nanterre, juste à côté de la centrale d'exploitation de Vinci Construction pour le chantier RER Eole. Nous reviendrons sur cette information que vous révélait Guillaume Biais sur Europe 1 dès ce matin. Une jeune fille de 15 ans violée en plein jour dans un TER dans l'indifférence générale. Les faits se sont déroulés entre Marseille et Aix. Nous rejoindrons notre correspondante dans la région. Vous l'avez certainement constaté, les prix de l'essence flambent de nouveau. La faute à l'envolée des cours du pétrole. Reportage et analyse à suivre. Dans ce journal également, si vous avez fait des dons pour Notre-Dame ou si vous projetez de le faire, ils seront défiscalisés à hauteur de 75%. Le texte était présenté ce matin au Conseil des ministres. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la méningite. Vous entendrez le témoignage poignant d'une maman qui a perdu sa petite fille de 3 ans et demi en quelques heures seulement. Et puis comme tous les mercredis, vos sorties ciné, ce sera avec Mathieu Charrier. Sans oublier la météo, Elena Morna. Elena, c'est de plus en plus instable avec beaucoup de vent.
Oui, sur l'ensemble du pays, des averses aussi localement orageuses. Elles sont plus fréquentes à l'est. Et ce vent, donc, avec 4 départements placés en vigilance orange à partir de 20h ce soir et pour toute la nuit, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère, du vent et à partir de demain, des pluies cévenoles qu'on attend donc dans le sud-est de la France.
Merci Elena Morna. On vous retrouve pour une météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
On l'a donc appris en fin de matinée, Dick Rivers, grande figure du rock'n'roll français, est mort la nuit dernière des suites d'un cancer.
Il devait fêter ses 74 ans aujourd'hui même, Dick Rivers et sa célèbre banane de son vrai nom Hervé Fornery. Plus de 55 ans de carrière et on va lui rendre hommage avec vous Thierry Geffrotin.
Oui, sur le podium des rockeurs français, des chanteurs devenus des légendes, Dick Rivers occupe la 3e place après Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Et ce genre de classement l'agaçait beaucoup d'ailleurs. C'est ça qui le poussait à continuer plus de 55 ans après ses débuts dans la carrière. Dick Rivers, d'abord chanteur d'un groupe, Les Chats Sauvages.
Dis un peu ça si c'est mignon, sais-tu où se trouve sa maison, oh, oh. Est-ce que tu le sais ?
Est-ce que tu le sais ? Reprise de What I Say de Ray Charles. Comme toute une génération de chanteurs, le jeune Dick Rivers est fasciné par l'Amérique, fasciné par Johnny Cash, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis et surtout par Elvis Presley. À ses yeux, c'était Jésus. C'est d'ailleurs en hommage à Elvis qui interprète le rôle de Dick Rivers dans Loving You, un film sorti en 1957, qu'Hervé Fornery choisira son nom de scène. Il a 16 ans quand il entre dans la religion du rock, mais il y a déjà 3 ans qu'il porte des bottes de cow-boy. Un look, banane et cheveux gominés, et surtout une voix. Dick, c'est le crooner blues, le rocker au cœur tendre.
J'aurais voulu pouvoir lui dire qu'au fond, je ne savais pas vraiment ce que tout cela voulait dire, mais je n'en ai pas eu le temps.
Dick Rivers adapte les Beach Boys, les Beatles. Il est invité en Angleterre par John Lennon et Paul McCartney. Puis viennent les années 70 et 80, moins florissantes, à part l'hommage en musique à sa ville natale, Nice, Baie des Anges, en 1984.
Si t'avais connu la piste des anges à moitié.
Les années 90 marquent un tournant. Dick Rivers retrouve la scène en 1995 après 19 ans d'absence. À 55 ans, il fait aussi ses débuts au cinéma avec Jean-Pierre Mocky. Le théâtre également, il joue dans Les Paravents de Jean Genet. Mais la chanson, toujours. Ses disques deviennent de plus en plus personnels. Il fait appel à de jeunes talents comme Benjamin Biolay ou Joseph Danvers. La nostalgie, c'est vraiment pas son truc. Et pourtant, l'année dernière, Dick Rivers accepte de participer à la tournée H Tendre. Et il explique, il ne faut jamais se prendre au sérieux. Toujours remettre le couvert. Et il savait de quoi il parlait, Dick. 33 albums studio à son actif et un premier disque sorti le jour de ses 16 ans.
Petite amie, les bars, je ne vous dis que ça. Ma petite amie, les bars, je ne vous dis que ça.
Merci pour cet hommage à Dick Rivers, Thierry Geffrotin. Alors je vous propose de l'entendre, Dick Rivers, Archive Europe 1. C'était en juin 2006 avec Frédéric Taddeï dans l'émission « Regarde les hommes changer ».
Je pense avoir, c'est une voix pas trop mauvaise, je pense même qu'elle s'améliore en vieillissant, et un amour de la musique, et donc je fais des disques tant que les gens les achètent. Je veux dire, j'ai toujours vendu des disques, mais par contre, là où vous avez raison, c'est que je n'ai jamais été Monsieur Tube. C'est-à-dire que j'ai plein de ce qu'on appelle des disques d'or, c'est-à-dire des chansons qui ont, par décennie, j'ai dû en avoir à peu près 3 ou 4, par décennie. Hein. J'ai plus marqué les gens par moi, par ce que je suis, par mon look, ou ma façon de parler, mon personnage, que par ma musique.
Dick Rivers, en juin 2006 sur Europe 1. Je vous propose à présent d'écouter un hommage, l'hommage rendu par un autre grand chanteur français, Hugo Frey.
Dick, c'était en plus de ça, évidemment, on avait le même parcours un peu semblable dans la musique. Lui, il aimait beaucoup la musique américaine, comme moi. C'est forcément... C'est triste pour tous ceux qui l'aimaient bien. Voilà, il avait son club, il avait sa musique, il avait son public. Et je sais qu'ici, il a été heureux dans ce métier, je crois, très heureux. Il a pu chanter avec à côté de Johnny, à côté de Francis Cabrel, enfin des gens qu'il admirait beaucoup.
Et d'Eddie Mitchell.
Eddie Mitchell, oui. Donc tout ça, c'était son ce mouvement de qui était au départ le rockabilly avant le rock'n'roll. Alors, je sais qu'il avait un côté très sympathique. Je crois qu'il avait un drapeau américain dans son jardin. Il aimait beaucoup la vie qu'il a menée et il aimait la musique qu'il a faite. C'est déjà un très bon signe et c'est pour ça qu'il a eu des fans qui aujourd'hui vont beaucoup pleurer. Donc, je pense à eux, je pense à sa famille.
L'hommage d'Hugo Frey à Dick Rivers, il était joint par Diane Chénouda.
Europe 1, 12h36, la suite du journal, Sébastien Guyot, Elisabeth Assayag.
Dans l'actualité également, cette information qu'Europe 1 vous révèle dès ce matin, du béton directement déversé dans la Seine à Nanterre.
Un scandale environnemental, un vaste chantier public de construction dans le cadre du Grand Paris, le prolongement de la ligne E du RER Éole vers la Défense et une plainte pour pollution. Au cœur du scandale, Guillaume Biais, un géant du BTP, Vinci Construction.
Oui, Vinci Construction, dont le siège, figurez-vous, est dans la même rue, à quelques centaines de mètres de l'endroit où cette pollution a été constatée il y a un mois par des gardes-pêche de l'Association de pêche et protection du milieu aquatique des Hauts-de-Seine. En fait, il y a là une usine à béton qui produit tout le ciment nécessaire pour le gigantesque chantier du RER Éole La Défense. Mais juste au-dessus de la berge, les ouvriers ont creusé à même le sol une immense fosse dans laquelle se déversent les eaux de nettoyage des camions toupies. Une fosse pleine à ras-bord. Alors ils ont ouvert le grillage de clôture et facilité l'écoulement du trop-plein en contrebas jusque dans la Seine. Totalement illégal et scandaleux pour ce garde-pêche. Autour de nous, on a une berge qui est complètement détériorée, une végétation qui est prise dans le ciment et le fond de la Seine, du coup, qui est totalement solidifié à base de restes de ciment, de sable, de gravier, alors que normalement, habituellement, on a un peu plus d'un mètre de profondeur à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on peut voir qu'on a 30 cm d'eau sur cette zone. D'après lui, donc, ce déversement de béton dans la Seine durait depuis plusieurs mois. Vinci Construction, que nous avons joint, parle d'un incident anormal et regrettable. Précise que tout a été stoppé et qu'une enquête interne est en cours. D'après nos informations, le responsable par intérim du site a expliqué à la police que le système de recyclage des eaux était plein, hors service. Et du coup, cette laitance de béton partait directement dans la Seine. Une plainte a donc été déposée. Ce genre de rejet sauvage, c'est un délit. C'est passible de 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Information Europe 1 signée Guillaume Biais. On retrouve, Guillaume, votre reportage en intégralité et les photos et les vidéos sur notre site europe1.fr.
Évoquons à présent ce drame survenu dans l'indifférence générale, le viol d'une jeune fille de 15 ans dans un TER.
Cela s'est passé en plein jour, il y a une semaine, entre Gardanne et Aix-en-Provence. L'agresseur présumé a été arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et ce qui est frappant, Nathalie Chevance, c'est que le viol a eu lieu en plein après-midi sans que personne n'intervienne.
Oui, c'est un trajet de 14 minutes qui a viré au cauchemar pour cette jeune fille qui est allée déposer plainte pour viol le lendemain des faits à la gendarmerie. Dans le train, personne n'a rien dit, rien vu, rien signalé. Mais l'agresseur présumé, lui, a bien été identifié et interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance. Alors, si la direction de la SNCF qualifie les faits de très graves, les cheminots, eux, parlent d'un véritable scandale. Le résultat, disent-ils, d'une politique ferroviaire qui consiste à supprimer les contrôleurs dans les TER. Bernard Saint-Olesi, délégué FO.
On entend un peu le le paroxysme d'une situation sordide. Voilà, ça doit être un électrochoc entendu par toutes les autorités. Il faut revenir à quelque chose qui soit humain, un service de proximité. Je crois qu'après, il faut remettre des personnels dans les trains, des contrôleurs à bord. Il n'y a plus de contrôleurs dans ces trains-là. Ils y sont de manière sporadique à certaines heures, quand l'entreprise le peut. Quand vous n'avez plus personne qui surveille, ben, il se développe tous les phénomènes de la société. Les atteintes sexuelles, ou des atteintes graves, comme ça vient de se produire. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est un abandon des TER.
Alors depuis 2 ans, certaines petites lignes font pourtant l'objet d'un dispositif spécifique avec des patrouilles qui interviennent de manière aléatoire. La semaine dernière, 3 agents de la police ferroviaire venaient de descendre du train lorsque la jeune fille a été violée.
Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille.
Il est 12h40. Europe 1.
À suivre, les prix de l'essence qui s'envolent, pourquoi et que peut faire le gouvernement? On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Midi 42, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Sébastien Guyot et Elisabeth Assayas.
C'est à nouveau la flambée des prix à la pompe.
Oui, et en cause, non pas les taxes, mais la hausse du pétrole brut. Vous l'avez ressenti forcément dans les stations quand vous prenez votre essence. Maud Descamps, depuis le début de l'année, les prix s'envolent, c'est assez impressionnant.
Ah oui, entre janvier et avril, le litre de gasoil a pris 8 centimes. Pour le sans plomb, la hausse est encore plus forte, hein. 14 centimes de plus. Alors forcément, à la pompe, les automobilistes font grise mine. Pour Denise, jeune retraitée, c'est encore le pouvoir d'achat qui est entamé.
Je roule modérément, mais enfin, j'ai besoin de ma voiture, donc bien sûr, ça me préoccupe. Surtout que je fais partie des gens âgés, ça veut dire qu'ils sont ponctionnés par ailleurs d'un peu partout. Donc, même si j'ai une retraite à peu près correcte, je me pose plein de questions, bien sûr. Je vois bien que mon pouvoir d'achat n'est pas en hausse, bien au contraire.
Et il y a ceux qui n'ont déjà plus le choix, l'essence coûte trop cher, dit Denis, il a donc changé ses habitudes.
Bah moi j'essaye de moins rouler en fait, hein. J'essaye d'économiser au maximum, ouais. Ouais, parce que mine de rien ça pèse hein, quand on va en province, ça plus les autoroutes ça commence à compter. Voilà, on limite nos déplacements.
Alors cette semaine, hein, les prix du carburant flirtent avec ceux du mois d'octobre dernier, point de départ des Gilets jaunes. Et pour Stéphane, cette nouvelle hausse est bien la preuve que le mouvement de contestation n'a pas été entendu.
Même si les Gilets jaunes vont faire encore une action contre ça, une fois que ça sera oublié, ils vont augmenter. C'est un gros budget l'essence, hein. Donc ça devient un luxe maintenant une voiture.
Et le prix du carburant pourrait donc refaire surface lors de l'acte 24 des Gilets jaunes le week-end prochain.
Merci Maud Descamps. Pour comprendre le phénomène, en ligne à présent avec nous en direct, Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Paris Dauphine. Alors expliquez-nous, au début de l'année, la hausse de la fiscalité sur le carburant a été annulée en raison de la grogne des Gilets jaunes. Pourtant, les prix flambent à nouveau. À quoi c'est dû?
Écoutez, il faut quand même rappeler que dans un litre d'essence, il y a certes beaucoup d'impôts, mais il y a aussi du pétrole. Et le prix du pétrole, qui avait atteint des sommets au début du mois d'octobre, on était à plus de $80 le baril. En janvier, on était tombé à $50 le baril. Et là, avec de nouvelles tensions et un peu d'huile sur le feu que M. Trump a mis dans ses relations avec l'Iran, eh ben, nous sommes aujourd'hui quasiment à $75 le baril.
Et pour éviter le litre d'essence à 2 euros, est-ce que ça passe par une augmentation de la production de l'Arabie Saoudite qui vient de faire savoir à l'instant que ce ne serait pas le cas?
Alors, ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que les États-Unis ont mis en place des sanctions contre l'Iran. Mais ils avaient autorisé l'Iran à continuer à vendre du pétrole à un certain nombre de pays. Ça avait réduit les exportations de l'Iran, ça ne les avait pas annulées. Donc ils avaient donné ce qu'on appelait des dérogations. Ces dérogations vont être annulées à partir du 2 mai. Grossièrement, ça va enlever 1 million de barils jour supplémentaires sur un marché mondial de l'ordre de 100 millions. Techniquement, ce million de barils jour supplémentaires, l'Arabie Saoudite peut compenser et même, je dirais, la dépêche auquel vous faites allusion, je ne la prends pas trop au sérieux. Par contre, ce qui peut être grave et ce qui pourrait nous amener effectivement à 2 euros le litre, voire plus éventuellement, c'est que Trump est en train de pousser l'Iran dans ses retranchements. Et les faucons en Iran, les gardiens de la révolution, tous ceux qui veulent un affrontement dur avec les États-Unis, risquent à ce moment-là, tout simplement, on balance un missile dans le détroit d'Hormuz, qui est ce détroit entre Oman et l'Iran, par lequel transite une bonne partie des tankers qui vont approvisionner le monde en pétrole. et à ce moment-là, il n'y aura plus aucune compagnie d'assurance pour couvrir le risque.
Alors,
et ça s'arrêtera, et le pétrole pourrait atteindre plus de 100, voire 150 dollars de baril.
Alors Philippe Chelmin, très rapidement, que peut faire le gouvernement français pour faire baisser les prix à la pompe ?
Pas grand-chose. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est qu'il peut revenir à l'histoire de la TIPP flottante dont on se souvient, c'est-à-dire réduire une partie de la part variable des taxes qui sont prélevées sur un litre d'essence.
Mais l'impuissance du gouvernement français. Merci Philippe Chelmin. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine. Vous allez publier d'ailleurs le 15 mai prochain un rapport sur les marchés mondiaux de matières premières. C'était ce matin l'audience de la dernière chance pour l'aciérie Ascoval. Il n'y a plus qu'un seul repreneur en lice, British Steel. 270 emplois sont en jeu. Le tribunal de Strasbourg rendra sa décision le 2 mai.
Vous avez peut-être l'intention de faire des dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Eh bien, le texte pour la restauration et la reconstruction de Notre-Dame, c'est son nom, a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Un des volets, Anne-Laure Jumet, c'est donc une défiscalisation plus avantageuse pour les dons allant jusqu'à 1 000 euros.
Oui, 1 000 euros, c'est en effet le plafond fixé pour bénéficier d'une réduction de 75%. En clair, pour un don de 100 euros, on pourra déduire 75 euros de son impôt sur le revenu contre 66 euros jusque-là. Alors attention, ce sera limité dans le temps. Selon nos informations, la date sera fixée ultérieurement par décret. Donc vous aurez jusqu'à un certain temps pour réaliser ce don et avoir cette défiscalisation de 75%. Au-dessus de 1 000 euros, l'avantage fiscal reste lui inchangé à 66%. Alors on rappelle que seulement 4 organismes sont chargés de la collecte pour Notre-Dame. Ça va être rappelé dans le texte. La Fondation du patrimoine, la Fondation de France, le Centre des monuments nationaux et la Fondation Notre-Dame. Et il faudra attendre un an pour déclarer ces dons au fisc, hein, puisqu'ils sont réalisés sur l'année 2019. L'avantage fiscal, lui, sera effectif à l'été 2020. Au moment de l'avis d'imposition.
Et dans le texte présenté ce matin, il y avait également un volet sur la reconstruction.
Oui, pour alléger les contraintes liées aux futurs travaux, le texte devrait ainsi autoriser le gouvernement à procéder par ordonnance. Les règles régissant habituellement les travaux sur les monuments historiques pourraient ainsi être assouplies. Il pourrait aussi y avoir moins de contraintes en matière environnementale. Les travaux pourraient aussi ne pas être soumis au code des marchés publics. Tout cela permettant d'aller vite et de respecter l'engagement présidentiel de reconstruire en 5 ans la cathédrale.
Merci Anne-Laure Jumet.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la méningite.
Une maladie rare qui fait peur. 500 cas recensés en 2017, 62 morts en France. Et aux premiers symptômes, raideur de nuque, forte fièvre, sensibilité à la lumière, il faut agir vite. Vous allez entendre un témoignage poignant sur Europe 1, celui de Patricia. Cette mère de famille a perdu sa fille de 3 ans et demi en quelques heures seulement.
À 16h30, elle sort de l'école, donc la maîtresse me dit depuis 15h, elle est très fatiguée. Je rentre à la maison, elle se met à vomir, elle a de la fièvre, elle demande à aller se coucher. Et puis, comme toute maman un petit peu inquiète, je me lève vers 4-5h du matin et je remarque sur sa peau quelques taches. J'ai pensé à une maladie comme peuvent avoir beaucoup d'enfants, en me disant « je vais prendre un rendez-vous chez le médecin ». Seulement, j'ai perdu des heures très précieuses. Quand j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin à 10h, elle était déjà pratiquement au coma. Elle est rentrée à 11h à l'hôpital du Havre. Elle est décédée à 13h30, ce qui prouve que c'est foudroyant, sans qu'on ait vraiment le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé. Je dis toujours, j'ai 3 enfants, 2 vivants. Ma fille non vaccinée, elle n'est plus là.
Un témoignage de Patricia Mérant-Sorel, aujourd'hui présidente de l'association Petit Ange, Ensemble contre la méningite, au micro de Mélanie Gomez.
Europe 1, 12h49, la suite du journal. Sébastien Guyot, Elisabeth Assayag.
Ce 24 avril marque la première journée de commémoration du génocide arménien en France.
C'était en effet le 24 avril 1915 que débutait le massacre d'1,5 million de personnes, 600 intellectuels arméniens tués à Constantinople, l'ancienne Istanbul. Justin Morin, vous êtes à Valence dans la Drôme où une forte communauté arménienne est implantée, 10% de la population, et les commémorations ont débuté dès hier soir.
Il y a d'abord eu la veillée aux morts devant une sculpture noire, un personnage sans visage courbé, monument en mémoire des victimes du génocide rue d'Arménie. Quelques chants d'enfants, des prières et la distribution des madargues bénis, petits sandwichs à la symbolique bien précise comme l'expliquent Joséphine et Silva qui les ont préparés.
Madar veut dire offrande pour l'âme de nos morts. Pendant et après le génocide.
Je pense à mes grands-parents que j'ai pas connus. C'est très émouvant.
Et puis cet après-midi, il y aura les discours des associations, du préfet de la Drôme qui assiste pour la première fois à la cérémonie. Mais ici, on attend surtout la marche de la dignité à travers la ville. Marche qui s'achèvera devant cette même stèle rue d'Arménie avec ce chant.
«
Il raconte l'assassinat d'un intellectuel dans un village arménien. La chanteuse s'appelle Ankine.
Les premières paroles, c'est « Le peuple pleure la mort de cet homme ». Et c'est une personne parmi tant d'autres. Voilà, c'est vraiment des paroles qui touchent beaucoup. Et j'espère qu'à travers ma voix, on réussit à transmettre cette douleur et cette souffrance.
Il y a l'espoir qu'un jour la Turquie l'entende et reconnaisse le génocide arménien, le combat de plusieurs générations pour cette communauté. À Valence, Justin Morin, Europe 1.
À suivre, le monde sportif français est en ébullition. C'est l'heure du baptême pour l'Agence nationale du sport. Mais le conflit est ouvert entre le gouvernement et les conseillers techniques sportifs. À tout de suite.
H53, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Sébastien Guyot et Elisabeth Assayag.
Dépoussiérer le modèle sportif français, c'est l'objectif d'une nouvelle instance lancée aujourd'hui, l'ANS.
L'ANS, l'Agence nationale du sport. Problème, elle fait polémique. C'est elle qui désormais décidera des montants accordés aux fédérations et non uniquement l'État. Les fédérations olympiques appellent unanimement la ministre des Sports à suspendre la réforme. Particulièrement remonté contre le projet, Cyril de la Monnerie, ce qu'on appelle les CTS, les conseillers techniques sportifs.
C'est ça, ils ont un rôle essentiel, ce sont eux qui détectent et forment les futures stars du sport français, les nouveaux Mbappé. Les conseillers techniques sportifs existent depuis près de 60 ans, ils ont un statut de fonctionnaire, mais surtout, ils sont payés directement par le ministère des Sports. Le projet du gouvernement, c'est d'amener les fédérations sportives à prendre en charge elles-mêmes ces CTS d'ici 2025, à les rémunérer donc. 1600 CTS sur les 3200 existant sur le territoire français seraient concernés. Un projet très contesté. L'un de ceux qui est à la tête de la fronde, c'est Philippe Bana, 18 ans, au service du handball français, véritable fabrique à médailles pour ce directeur technique national qui était l'invité ce matin de la matinale d'Europe 1. Le gouvernement fait fausse route.
Ces 1600 personnes, on peut les rassembler, mieux les manager et pas dire tout simplement on va solder la moitié des fonctionnaires du ministère des Sports, ça va aller beaucoup mieux. L'effort avait été fait, il y a déjà 3% de fonctionnaires qui sont partis par an, ça fait 100 cadres pratiquement par an qui s'en vont. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut en liquider 50%. Aucun autre ministère n'a droit à cette punition alors que les Jeux de 2024 arrivent.
Et à 5 ans des Jeux, la majorité de ces cadres techniques redoutent un sport français à deux vitesses, avec d'un côté les grandes fédérations qui ont des moyens et les petites de l'autre qui devront se passer de leur aide. La ministre des Sports comprend leur inquiétude, mais Roxana Maracineanu a rappelé que le statut et le salaire des CTS seraient conservés.
Merci Cyril de la Morinerie. Comme chaque mercredi, le cinéma avec les coups de cœur de Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Et le film le plus attendu de la semaine, c'est bien sûr Avengers Endgame.
Oui, fin de partie si on traduit littéralement, car ce film vient clore un long cycle Avengers commencé il y a 11 ans et qui a accouché de 21 films. Ce sont les Iron Man, Captain America, Captain Marvel, etc., etc. Alors, dans le précédent Avengers, Infinity War, on avait laissé nos héros avec la moitié d'entre eux qui venaient de mourir et surtout le méchant Thanos qui possédait les pierres d'infinité lui permettant de régner sur le monde et de mener à bien son projet, éradiquer la moitié de l'humanité. Heureusement, Thor, Hulk, Captain Marvel vont se remettre sur pied et repartir au combat pendant plus de 3 heures. Si vous n'y comprenez rien, vous n'irez pas. Si vous êtes adepte de cet univers, franchement, vous serez comblé parce que c'est une nouvelle fois bourré de références, d'humour, de super-héros, bien sûr, avec une scène de combat final de près d'une demi-heure dont je ne peux pas vous dire grand-chose pour ne pas spoiler, si ce n'est qu'elle est épique et un peu fatigante. On en ressort nous-mêmes à bout de souffle. Donc voilà, Avengers Endgame, et ne vous inquiétez pas, même si c'est la fin d'un cycle, on n'en a pas pour autant fini avec nos super-héros.
Merci de ne pas avoir spoilé, Mathieu Charrier. Et puis toujours à propos de cinéma, sachez que les films Netflix pourront toujours être primés aux Oscars, malgré l'affronte de plusieurs réalisateurs dont Steven Spielberg. L'Académie américaine a refusé de changer les règles, ce qui ne sera pas le cas, rappelons-le, à Cannes cette année.
Sébastien Guyot, on se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres et dans un instant la météo.
Il est 12h56, Elisabeth.
Europe 1.
Vous restez avec nous, terminez les emballages, vive le vrac, les épiceries 100% vrac se multiplient, les chaînes de magasins en vrac, des drives spécialisés dans le vrac ou encore des rayons dans les supermarchés. La France, bientôt championne de la vente en vrac, c'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.